VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 21 février 2018 en direct de Washington. Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, un élu de l'opposition jugé depuis sa chambre d'hôpital.
Remaniement ministériel au Gabon, 9 ministres titulaires changent de portefeuille.
Sanctions des États-Unis contre le groupe Ansarul Islam opérant dans le nord du Burkina Faso.
George Weah, le nouveau président du Libéria, reçu aujourd'hui à l'Élysée par le président Emmanuel Macron.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump propose le renforcement de certaines réglementations sur les armes à feu après le massacre de Parkland en Floride.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, un élu de l'opposition poursuivi pour offense au chef de l'État a été jugé dans sa chambre d'hôpital à Kinshasa. Sa défense dénonce ce qu'elle appelle un acharnement du pouvoir. Les détails avec Eddie Isango.
Le député provincial de Kinshasa, Gérard Moulumba, a comparu hier devant un tribunal qui a siégé dans son lieu d'hospitalisation selon son avocat. Pour Maître Léon Gomboa, les pouvoirs veulent le faire condamner par tous les moyens à travers un procès qui n'en est pas un. L'élu local souffre de complications rénales selon son frère aîné, un autre député du nom de Léon Moulumba. Selon lui, Gérard Moulumba n'a pu ni parler ni bouger de son lit d'hôpital lors de cette audience. Son avocat brandit pourtant une ordonnance du parquet largement partagée sur les réseaux sociaux, autorisant depuis 2 semaines Gérard Moulumba à suivre des soins dans un centre hospitalier approprié. Il s'étonne que la libération provisoire de son client décidée par les parquets soit toujours bloquée. Gérard Moulumba a été arrêté le 10 novembre à l'aéroport de Kinshasa, détenu au secret, puis transféré le 19 janvier dans une clinique de Kinshasa. Il est membre de l'UDPS. Il risque au maximum une peine de 2 années de prison selon son avocat. Le tribunal a promis de se prononcer sur son cas dans les 48 heures.
Remaniement ministériel au Gabon. 9 ministres titulaires ont changé de portefeuille. Le ministre de l'Agriculture, Yves Fernand Manfumbi, est limogé. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est le ministre en charge des affaires présidentielles, Étienne Massar Kabinda Makaga, qui a fait l'annonce. 9 ministres voient leur portefeuille changer avec 2 créations de ministères. Le ministère de la Pêche qui revient à Monsieur Rossatanga Rigno et le ministère d'État de la Protection sociale qui revient à Paul Biyogemba. Jean-Yves Théal, diplomate de carrière et conseiller diplomatique du président Ali Bongo Ondimba, remplace Guy Rossatanga Rigno au secrétariat de la présidence. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Yves Fernand Manfumbi, a été limogé, remplacé par Biendi Maganga Moussavou. Le ministre de la Justice change aussi de portefeuille. Francis Nkea Dingue était sur la sellette. Les magistrats en grève depuis fin 2017 réclamaient sa démission. Le Gabon se prépare à des élections législatives devant se tenir avant fin avril selon le gouvernement. Prévues initialement en décembre 2016, ces élections ont déjà été reportées 2 fois.
Le groupe Ansarul Islam, qui opère dans le nord du Burkina Faso, est dans le collimateur des États-Unis. Ils viennent de l'ajouter sur leur liste noire et ont imposé des sanctions à ce groupe djihadiste. Abdourahmane Dia.
Selon le département d'État, cette décision a pour objectif de priver Ansarul Islam des ressources dont il a besoin pour planifier et mettre en œuvre de nouvelles attaques terroristes. Cette mesure s'accompagne de sanctions financières et interdit aux citoyens américains d'engager des transactions avec ce groupe. Ansarul Islam est un groupe djihadiste basé au Burkina Faso. Il a lancé de nombreuses attaques dans le nord du Burkina, près de la frontière avec le Mali. L'initiative indique au public américain et à la communauté internationale qu'Ansarul l'islam a commis ou présente un risque important de perpétrer des actes de terrorisme, a dit le département d'État dans un communiqué. Le groupe djihadiste Ansarul Islam avait revendiqué plusieurs attaques contre l'armée burkinabé ces derniers mois, dont une qui avait fait 12 morts dans les rangs des militaires en décembre 2016.
Le nouveau président du Libéria, Élu fin décembre et investi le 22 janvier, a réservé à la France sa première visite officielle hors du continent africain. Précision de Dili Diko.
Le président libérien George Weah sera reçu aujourd'hui à l'Élysée par le président Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail en présence de nombreuses personnalités du monde sportif, du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Makhtar Diop, et du directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux. Hier, lors d'une conférence débat organisée au Conservatoire national des arts et des métiers à Paris, le président du Libéria a déclaré avoir hérité d'un pays sans argent et plombé par les malversations politiques. Il a également affiché sa ferme volonté de rompre avec la corruption endémique dans son pays, une promesse de campagne. L'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC a aussi souhaité renforcer la relation bilatérale, malgré la barrière linguistique séparant le Libéria anglophone et la France. Face aux étudiants venus assister à la conférence, George Weah a mis en avant son autre priorité, la jeunesse. « Je ferai tout mon possible pour soutenir le secteur de l'éducation qui ne reçoit actuellement que 2% de notre budget national », a-t-il conclu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'acteur George Clooney et sa femme Amal donnent 500 000 dollars pour soutenir une manifestation pour le contrôle des armes à feu le 24 mars aux États-Unis. Prévue à Washington et dans d'autres grandes villes, cette marche est organisée par des lycéens rescapés de la fusillade qui a fait 17 morts en Floride. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Amal et moi sommes si inspirés par le courage et l'éloquence de ces jeunes du lycée Stoneman Douglas, a déclaré George Clooney. Il a ajouté que sa famille sera présente à la marche et offre les 500 000 dollars au nom de ses propres enfants pour aider à financer la manifestation. Des lycéens s'exprimant sur Twitter via l'expression « Never again », plus jamais ont exprimé leur gratitude à la famille Clooney. Plusieurs célébrités dont Jennifer Lopez, Luis Fonsi, Kim Kardashian sont aussi montées au créneau pour réclamer un contrôle plus strict des armes à feu. Nicolas Cruz, 19 ans, a ouvert le feu mercredi dans son ancien lycée en Floride. Malgré des signalements sur son comportement violent, il a légalement acheté l'arme pour perpétrer cette dernière fusillade qui relance le débat sur les armes à feu aux États-Unis.
Et en boitant le pas au Clooney, l'animatrice Oprah Winfrey a annoncé de son côté qu'elle verserait la même somme, 500 000 dollars, soulignant que cette mobilisation lui rappelait celle des années 60 contre la ségrégation raciale.
À noter que l'administration Trump examine les moyens de renforcer certaines réglementations sur les armes à feu. Le président américain a lui-même officiellement recommandé hier l'interdiction de tous les mécanismes appelés bump stocks qui transforment des armes légales en fusils automatiques. La Maison-Blanche se dit par ailleurs ouverte à des discussions sur un éventuel âge minimum pour l'achat de l'arme semi-automatique la plus populaire aux États-Unis. L'administration Trump a aussi indiqué qu'elle est également ouverte à un renforcement du contrôle des antécédents des acheteurs d'armes.
Toujours aux États-Unis, un avocat basé à Londres a plaidé coupable hier d'avoir menti aux enquêteurs américains sur ses contacts avec Rick Gates, un ancien membre de la campagne électorale de Donald Trump, et ce dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Il s'agit d'Alex Van der Zwan, un gendre du milliardaire russe German Khan. Il travaillait pour un prestigieux cabinet d'avocats de New York, engagé par l'Ukraine en 2012 avant son limogeage l'année dernière. Rick Gates est un proche collaborateur de Paul Manafort, ancien directeur de campagne de M. Trump.
Les aviations syriennes et russes se sont acharnées mardi sur une enclave rebelle proche de Damas, tuant plus de 100 civils et mettant hors service plusieurs hôpitaux, malgré les appels de l'ONU à mettre fin à cette souffrance insensée. Au total, au moins 250 civils, dont près de 60 enfants, ont été tués depuis dimanche dans les bombardements sur la Ghouta orientale, fief rebelle assiégé par le régime depuis 2013.
Le président palestinien Mahmoud Abbas, brouillé avec les États-Unis, a réclamé mardi au Conseil de sécurité de l'ONU une conférence internationale à la mi-2018, point de départ d'un mécanisme multilatéral pour créer un État palestinien. Ce faisant, le dirigeant a rejeté une médiation unique des États-Unis dans le processus de paix au Proche-Orient, dans l'impasse depuis des années. Cette conférence, dans un lieu non précisé, réunirait Israéliens et Palestiniens, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, le quartet États-Unis, Russie, Union européenne et ONU, et des pays de la région. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire enregistre la 2e croissance la plus rapide en Afrique subsaharienne et 4e dans le monde. Le rebond du secteur agricole et la bonne gestion des chocs liés aux différentes revendications financières et la baisse brutale du prix du cacao ont permis cette dynamique. La Banque mondiale prévoit déjà un taux de croissance de 7% entre 2018 et 2019. L'institution de Bretton Woods recommande une plus grande diversité de l'économie et une meilleure implication des acteurs du secteur privé. La BAD a enregistré de bons résultats entre 2015 et 2017 d'après son patron Akinwumi Adesina. La BAD a connu une progression de plus de 73%. Le bénéfice net a atteint 855 millions de dollars. La banque a injecté plus de 7 milliards de dollars dans l'économie africaine en 2017. Ce financement a permis à plus de 4 millions de personnes d'accéder à l'électricité. Plus de 8 millions ont bénéficié de meilleures technologies agricoles. 14 millions de personnes ont vu leur mode de transport s'améliorer et plus de 8 millions accéder à l'eau potable et à des installations sanitaires. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Russie ont dépassé 6 milliards de dollars en 2017. C'est le niveau le plus élevé dans toute l'histoire des relations commerciales entre les deux pays. Les investissements cumulés de la Russie en Égypte se sont élevés à plus de 4 milliards de dollars à la fin du mois de décembre 2017. Les secteurs du pétrole et du gaz ont obtenu 60% du financement.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, à Stamford Bridge, Chelsea accueillait le FC Barcelone pour le choc de la soirée. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul, un but partout. Les Catalans ont eu la maîtrise du jeu, une bonne partie de la rencontre, mais c'est bien Chelsea qui a ouvert la marque grâce au Brésilien William à la 62e minute de jeu sur un bon décalage d'Eden Hazard. Lionel Messi, inévitable, a réduit le score à la 75e minute. À noter que l'Argentin a mis fin à la malédiction, puisque jusque-là il n'avait en 8 rencontres jamais marqué face aux Blues de Chelsea. Le score final donc un but partout, et dans l'autre rencontre de la soirée, le Bayern de Munich a fait exploser Beşiktaş à domicile. Les Turcs rapidement réduits à 10, n'ont pas pesé bien lourd face aux géants allemands. Deux doublés, celui de Thomas Müller et celui de Robert Lewandowski, ainsi qu'un but du français Kingsley Coman. 5 buts à 0, le Bayern de Munich est donc logiquement presque qualifié. Avant le match retour en Turquie, ce sera dans 2 semaines.
À suivre ce mercredi, les 2 derniers 8e de finale.
Oui, le Shakhtar Donetsk face à l'AS Rome. À noter que les Italiens sont 3e du calcio, avec 16 points de retard sur le leader Naples et 15 sur le 2e, la Juventus Turin. Autre rencontre de la soirée, le FC Séville face à Manchester City, soit une confrontation entre le tenant du titre de l'Europa League et la formation qui a remporté la petite Coupe d'Europe les 3 saisons précédentes.
Zidane veut rester au Real.
J'ai envie de rester le plus longtemps possible, c'est ce qu'a déclaré hier Zinedine Zidane sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2020. Le technicien français a voulu couper court aux rumeurs d'un départ en fin de saison. Il a cependant reconnu l'usure.
Ligue africaine des champions.
Eh oui, le Williamsville Athletic Club s'est qualifié pour le tour suivant de la Ligue des champions aux dépens du Stade malien. Une victoire 1-0 hier à Abidjan. Les vice-champions de Côte d'Ivoire affronteront le WAC Casablanca, tenant du titre au tour suivant.
Coupe de la Confédération, les résultats.
Eh oui, c'est l'autre coupe africaine. À noter notamment la qualification des Béninois d'Énergie contre la FIA de Guinée. Qualification de la PR du Rwanda qui a battu Ans Réunion, c'est un club séchellois, 4-0. Et puis les Camerounais de New Stars éliminés par le Deportivo Niefang, c'est un club de Guinée équatoriale. Les Congolais du CS La Mancha qui éliminent la Estanda de Côte d'Ivoire. Le 11 créateur du Mali battu par Belouizdad, le club algérien. A noter également la qualification des Green Buffaloes, le club zambien, devant les Égyptiens d'Al-Masri.
Jeux olympiques d'hiver 2018.
La Norvège toujours en tête devant l'Allemagne et le Canada au classement des médailles. Norvégiens et Allemands qui comptent 11 médailles d'or chacun. Les États-Unis hier ont su augmenter leur niveau de jeu en hockey. L'équipe masculine accède au quart de finale après une victoire 5-1 face à la Slovaquie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, c'est vendredi que doit reprendre le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Ce dialogue doit durer une dizaine de jours. Le début des débats a permis la libération de 45 personnes arrêtées pendant les manifestations antigouvernementales. C'est l'une des mesures d'apaisement qu'exigeait l'opposition. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint le représentant spécial du Centre pour le dialogue humanitaire qui suit de près ce dialogue au Togo, Freddy Kourikiye.
Chaque exercice, chaque séance de dialogue a permis d'avoir un compromis, le plus petit soit-il. Et il n'y a aucune raison de douter que le présent dialogue, qui se tient sous la facilitation du président ghanéen, il doit être là normalement le vendredi à la reprise. Il n'est pas exclu qu'on ait un compromis de meilleure qualité compte tenu des enjeux et de la détermination de chacune des parties. Et essayons de faire en sorte que ça soit pour le bien-être de tous les Togolais et le succès politique des acteurs autour de la table.
La constitution de 92, c'est la principale revendication de l'opposition. Il y a aussi la loi électorale. Quelles sont les concessions possibles des deux côtés?
Depuis 2014, il y avait déjà une ouverture sur la question constitutionnelle relative à la limitation des mandats et au mode de scrutin. Donc ça, je pense que c'est un acquis. Le président de la République avait donné des gages à travers les instructions données au gouvernement. Sur la loi électorale, il y a certainement quelques points à revoir. Ça, laissons-le à ceux qui sont au dialogue pour voir ce qu'ils vont proposer. Mais je pense qu'il y a des améliorations qui sont acceptées de toutes parts, notamment la limitation et le mode de scrutin. Je sais qu'il y aura une question sur laquelle reviendront tous les acteurs, c'est de savoir à quand le compteur sera mis en marche. La dynamique est davantage plus positive qu'un retour aussi simple qui probablement pour certains tiendrait dans un simple slogan, pour d'autres serait absolument impossible, alors que ceux qui le revendiquent peuvent certainement, comme vous le dites vous-même, le pouvoir à donner des signes d'apaisement. D'autres aussi peuvent arriver à faire quelques concessions pour avoir un compromis qui soit inclusif dans le sens où il tiendrait compte des intérêts de chacun.
Et quels sont les scénarios possibles, un compromis gagnant-gagnant?
À moins que vous ne vouliez rester dans le jeu absolument contre-productif, dans le jeu à somme nulle, le meilleur scénario pour le Togo aujourd'hui, comme je l'observe depuis quelques années, ça doit être un scénario gagnant-gagnant, où on évite surtout l'humiliation d'un camp sur un autre, et puis paver l'ensemble le chemin qui peut conduire à la consolidation des institutions démocratiques.
La rue s'est mobilisée pour exiger le départ du président Faure Gnassingbé.
Je ne pense pas que la lecture soit exactement celle-là. On a entendu des choses comme ça, mais en acteur politique, je ne vois pas pourquoi les acteurs politiques togolais tiendraient à ce qu'il y ait une rupture de la légalité constitutionnelle en le faisant partir comme ça. Donc essayons plutôt de voir les choses positivement. Je ne sais pas si le Togo est dans une posture révolutionnaire qui ferait partie du président aujourd'hui. Je préfère plutôt encourager ceux qui sont autour de la table de privilégier toutes les solutions qui préservent le cadre constitutionnel, même s'il est faible, la qualité qui est là. C'est celle-là qui a été bâtie par ces mêmes acteurs, mais le défi qui est posé à chacun d'eux, c'est l'améliorer de manière constante, de manière conséquente, et dans une optique positive et inclusive.
Freddy Kourikiye, représentant spécial du Centre pour le dialogue humanitaire basé à Genève.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, 3 600 000 personnes sur les 11,7 millions d'habitants que compte le pays ont besoin d'assistance humanitaire. Ces chiffres ont été fournis lundi lors du lancement du plan officiel des réponses humanitaires entre le gouvernement et Otcha. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Hier soir, je n'ai pas mangé. Même ce matin, je n'ai rien eu à mettre sous la dent. Maman a préparé le soir, elle ne m'a pas donné à manger, car elle croyait que nous partageons à manger normalement à l'école. Maman ne sait pas que la nourriture que l'on nous donne est insuffisante pour deux personnes.
Le témoignage de cet élève qui étudie en deuxième primaire est poignant. Il illustre la situation des milliers de familles de la commune de Rugombo en province de Bubanza, au nord-ouest du Burundi, qui ne mangent pas suffisamment leur faim. Comme les plus de 3 600 000 Burundais papillés à travers 11 des 18 provinces du Burundi qui sont en besoin d'assistance humanitaire selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Des milliers de personnes sont prioritairement ciblées, comme l'indique le secrétaire permanent du ministère des Relations extérieures, Jean de Dieu Ndikumana.
Inclusif et multisectoriel, le plan de réponse humanitaire répond aux besoins urgents des populations burundaises les plus vulnérables. Nous devons veiller à axer nos efforts auprès des 188 300 déplacés, dans 410 000 réfugiés, 57 400 retournés et 75 700 rapatriés pour encourager les retours et leur intégration durable. Le plan de réponse humanitaire entend également apporter une réponse d'urgence aux réfugiés. Près de 8 000 Congolais ont traversé la frontière du Burundi depuis le mois de janvier 2018.
Madame Salima Mokrani, chef de bureau d'intérim de l'Office de coordination des affaires humanitaires, estime que le nombre de personnes en besoin humanitaire a augmenté d'année en année au Burundi.
L'augmentation des chiffres ne veut pas dire que 2017 n'a pas couvert des besoins, bien entendu. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est difficile et que les vulnérabilités se sont aggravées. Il y a plus de personnes vulnérables et il n'y a pas eu plus de moyens d'y répondre. Donc c'est pour ça que l'enveloppe financière pour 2018 est plus importante.
Pour le coordonnateur résident des Nations Unies au Burundi, les agences des Nations Unies doivent distinguer l'humanitaire du développement, Gary Conil.
Il n'est plus acceptable pour nous de définir le succès en matière humanitaire par tout simplement le nombre d'individus qui ont reçu de l'assistance alimentaire ou qui ont reçu tel type d'appui. Le succès en matière humanitaire doit se définir comme étant le nombre d'individus qui, s'ils font face au même choc l'année prochaine, le nombre d'individus qui seront affectés par ce choc va diminuer. Ça nécessite la participation et l'implication de tous. Avant, la section développement était complètement séparée de la section humanitaire. Aujourd'hui, on sait que ça ne peut plus se concevoir comme ça.
Il est à remarquer que la compilation des données montre bel et bien que le nord et le nord-est du Burundi demeurent très vulnérables dans quasiment tous les secteurs, ainsi que des régions de l'ouest du pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
L'Union des journalistes tchadiens lance une journée sans presse ce mercredi pour dire non aux agressions dont sont victimes, selon elle, les journalistes dans l'exercice de leur métier. Elle accuse non seulement les services de sécurité de tels actes, mais elle dénonce aussi les fermetures non justifiées des radios communautaires des provinces par des autorités locales pendant cette période de crise sociale. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmadjingar fait le point.
Cette journée consiste à fermer les journaux, les radios et télévisions publiques et privées pendant 24 heures sur l'ensemble du territoire national. Une action qui vise à protester contre le traitement inhumain et dégradant infligé aux journalistes qui tentent de couvrir les manifestations ces derniers temps au Tchad suite aux mesures d'austérité réduisant les salaires des agents de l'État. Belngar Larmel-Aguerre est le président de l'Union des journalistes tchadiens.
Les journalistes en reportage dans les lieux de manifestation et des locaux des médias deviennent des cibles de la police déployées pour supprimer ces manifestations après même les avoir bien identifiées, auxquelles s'ajoutent des appels anonymes, menaces verbales et filatures des confrères correspondants des médias internationaux par des individus se réclamant des agents de renseignement. Dans ces conditions, quelle que soit la volonté des professionnels, l'exercice du journalisme leur est ainsi presque impossible.
François Ndjekombe, ex-correspondant de VOA Afrique et aujourd'hui directeur de la radio Oxygène, dont les locaux de sa radio ont été violée par la police lors de la dernière manifestation des élèves et étudiants se réjouit de cette initiative.
J'ai adressé une lettre de protestation au président du Haut Conseil de la Communication pour dire je ne suis pas content de la manière dont les policiers sont venus, une trentaine lourdement armés, forcer les portes, rentrer dans la salle de rédaction, rentrer au studio, les journalistes qui étaient en train de travailler avec les casques à l'oreille et tout ça, les faire sortir, les traîner par le col. Ça pouvait se passer dans n'importe quel organe. Et donc, je ne m'en réjouis pas forcément parce que la radio oxygène, c'est la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais simplement parce que c'est une action qui va avoir une répercussion au-delà de nos frontières.
Le président du Haut Conseil de la Communication, Dieudonné Dionabaï, a tenté de dissuader la plateforme des organisations professionnelles des journalistes, mais sans succès. Toutefois, il prend acte de cette action.
Nous les comprenons, mais nous ne sommes pas d'accord avec eux, parce que le contexte ne s'y prête pas. Tous les professionnels des médias proclament urbi orbi qu'ils sont neutres, qu'ils sont indépendants. Maintenant qu'il y a la grève des travailleurs du secteur public, chacun allant de son interprétation, on les accuserait d'accointance avec les grévistes.
C'est dans ce climat de suspicion entre les journalistes et les services de sécurité en cette période de crise qu'un journal trimensuel vient de voir le jour. Salam Info, un journal d'information générale et d'analyse. André Kodmadjingar Djamena, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la ville du Cap subit la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis plusieurs décennies, risquant ainsi de devenir la première grande ville mondiale privée d'eau. Pour beaucoup d'habitants, particulièrement ceux des townships, l'eau était déjà chose rare. Maintenant qu'il est demandé aux habitants de ne plus la gaspiller, certains estiment qu'ils n'en peuvent plus et expriment leur grande frustration. Un reportage d'Anita Powell, repris ici par Anastasie Toudiesh.
Aussi loin qu'elle puisse se le rappeler, Wale Kazirangana a toujours traité l'eau comme un liquide précieux. Mais ça n'était pas par choix. En 53 ans, elle n'a jamais pris de douche. Son logement social dans la banlieue pauvre de Kayelicha n'a pas de toilettes intérieures. Pendant des années, son mari, ses enfants, ses petits-enfants et elle-même se sont lavés avec un petit seau d'eau. Et elle ne comprend pas pourquoi certains habitants du Cap font autant de bruit au sujet des nouvelles mesures d'économie d'eau. Il y avait quelque chose qui clochait car pendant longtemps, il avait de l'eau en abondance et nous étions ceux qui ne devaient pas en gaspiller. Cette situation a changé. Si nous faisions attention à l'eau, maintenant ça nous concerne tous. C'est comme si nous étions dans le même bateau.
We are in the same. Like now they are in our shoes.
Sa voisine, Tombikaïs Edondi, assure que la sécheresse et les restrictions l'ont sévèrement touchée. Elle avait l'habitude de s'occuper d'un petit jardin potager. Maintenant, elle n'a que trois rangées d'épinards flétris et des choux-fleurs desséchés, faute d'eau.
This garden makes me cry.
Cela me fait pleurer parce que j'avais l'habitude de nourrir ma famille avec ce jardin.
Les scientifiques essaient toujours de comprendre les causes de cette situation difficile. Ils citent le changement climatique comme une cause évidente de la sécheresse. Aussi, la ville a été trop dépendante de la pluie pour alimenter ses réserves d'eau qui se sont évaporées après trois années de sécheresse. Maintenant, c'est la bousculade, de jour comme de nuit, autour de plusieurs sources naturelles où les habitants peuvent remplir les bidons jusqu'à 25 litres d'eau par personne. La crainte de tout le monde, c'est d'arriver au jour zéro, ce jour fatidique où l'eau cessera de couler au robinet. Initialement prévu le 4 juin, il est maintenant repoussé au mois de juillet. La ville envisage plus de 200 points de distribution d'eau. Jean Gordon habite le Cap depuis 70 ans.
Nous avons toujours pris l'eau comme acquise. Maintenant, nous savons ce que c'est de se battre pour l'eau.
Pour faire face à la situation, elle a dû faire quelques ajustements qu'elle annonce avec le sourire.
Moins de douche, partager la douche avec son mari.
Dans les zones les plus pauvres, comme à Kayelicha, où beaucoup d'habitants s'approvisionnaient à la fontaine publique, cette pénurie ramène les mauvais souvenirs de l'époque de l'apartheid. Mpumi Malisi est activiste.
La future bataille ne sera pas une lutte pour la liberté, mais une bataille pour l'eau.
En attendant, tous les habitants du Cap, qu'ils soient blancs ou noirs, riches ou pauvres, vivent dans la hantise du jour zéro et d'un avenir incertain.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'énième fusillade à l'école qui a relancé le sempiternel débat sur les armes à feu aux États-Unis. Des élèves survivants mobilisent la rue. Le président Donald Trump se dit pour un renforcement des contrôles. Le drame de Floride est-il le drame de trop? La tragédie aura-t-elle un quelconque impact sur le culte des armes dans le pays? Pourra-t-elle briser la mainmise de la NRA, le puissant lobby pro-armes sur le monde politique américain? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console Daryl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.